Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, je serai accompagné par mon ami, mon collègue, le grand, ben pas si grand que ça, Marc Bouchard. Salut Marc, ça va bien? T'es pas sûr, hein?
Ben, en fait, j'hésite toujours à... Quand tu me présentes de même, il y a comme toujours un doute dans mon esprit, à savoir, est-ce que je dois être en maudit après toi ou pas?
Ben, si ça te fait du bien d'être en maudit après moi, tu peux l'être. Parce qu'on est à très longue distance un de l'autre, fait que tu peux pas vraiment venir ici pour m'en sacrer une. Puis si oui, ben ça me permettrait de voir la voiture que tu conduis cette semaine.
Ah, c'est ça, mais j'irai pas avec celle-là, là, t'es carré.
Ouais, tu viendrais avec l'autre parce que celle dont on parle, t'as pas beaucoup de kilométrage que tu dois te faire dessus.
Non, effectivement. Ouais.
Si les gens se demandent, c'est parce que hier, on est allé dîner ensemble, moi et Marc, ce qui est une chose vraiment, vraiment rare, là, puis là, c'est tranche de vie, là. On se rencontre presque jamais, on se parle souvent par Skype et tout ça quand on enregistre, ou on s'écrit sur Facebook, mais on se voit très rarement. Et hier, ben, moi et Marc, on a été dîner ensemble pour une raison très précise. Marc, tu allais porter la voiture dont tu vas nous parler en introduction, qui est une Rolls-Royce, puis tu allais chercher une autre voiture qui est, ma foi, assez intéressante.
Ouais, la McLaren 570 GT. Écoute, c'est une sérieuse voiture. C'est vraiment une beauté. Tu l'as vu d'ailleurs. Malheureusement, on n'a pas pu faire de tour parce que, d'une part, ça traînait en longueur un peu puis tu devais retourner au boulot. Et d'autre part, parce que, comme tu l'as dit, je suis limité en termes de distance, malheureusement. Malgré tout, écoute, c'est vraiment une voiture assez spectaculaire. On pourra en reparler la semaine prochaine quand j'aurai fini mon essai et que j'aurai fait quelques photos en même temps.
Oui, c'est une très jolie voiture. Et en plus, c'était assez le bordel à l'entour du concessionnaire où on allait chercher la voiture, là, s'il y a de la construction partout dans ce coin-là, c'était pas jojo, là, fait que je t'aurais pas demandé vraiment d'aller me faire un tour, même si c'était le plan au début, mais oui. C'est pas grave, je t'en veux pas nécessairement pour ça. Je t'en veux pour plein d'autres choses, mais pas pour ça.
T'as quand même fait quelque chose que moi j'ai pas fait.
Oui. On va le dire. Ouais, il y avait une autre McLaren qui était quoi, la deuxième au Canada qu'on s'est fait dire?
Ouais, effectivement. La première était à Vancouver. Pas à Vancouver, à Toronto. Et ça, c'était la deuxième au Canada. Et on l'avait fait protéger là, avec un wrap transparent pour être sûr qu'elle était en sécurité, disons.
Mm-hmm. C'est une belle voiture. C'était quoi? C'était la McLaren 720?
C'est la 720S. C'est une voiture, écoute, c'est littéralement une voiture de course. Là.
Ouais.
C'est une auto qui est en fibre de carbone, qui a une structure en fibre de carbone. C'est vraiment, vraiment une magnifique voiture. D'ailleurs, tu as pris des photos?
Oui, il y a quelques photos sur notre page Facebook, ça allait voir. Puis, dans un orange, ma foi, assez pour mettre des lunettes de soleil pour pas se faire brûler les rétines, là. Mais c'est vraiment, vraiment joli. On a eu la chance de s'asseoir un peu à l'extérieur et j'ai même eu la chance de faire démarrer la voiture, ce qui était pas nécessairement prévu, mais la personne de chez McLaren, qui est extrêmement gentille en passant, vraiment un gars très gentil, m'a dit, ben, appuie sur le bouton démarrer, tu vois, l'écran va se relever, tu sais, l'écran se cache comme l'écran vers le bas, puis quand tu pèses sur le bouton, l'écran se lève pour que l'écran te fasse face, puis elle partait pas, puis il dit, ah ben, ok, démarre la voiture, puis tu vois, l'écran va bouger, puis là, je dis, ah, vraiment, je peux, appuyer sur le frein, appuyer sur le bouton démarrage, et, ma foi, le son qui est sorti de là était assez époustouflant.
Oui, effectivement. Et en passant, c'est le directeur général là, de McLaren Montréal. Une concession qui ouvre dans 2 semaines.
Oui, oui.
Ou bien, mettons, deux à trois semaines.
Ouais.
Et qui devrait, effectivement, on va voir ce que ça va donner. Mais on nous a promis une petite visite quand ce serait complété. Ouais. Évidemment, on va en profiter pour y aller, c'est certain.
Oui, c'est sûr, parce que je pense pas aller faire un tour pour un jour m'acheter ce type de voiture. Mais oh mon Dieu, que ça permet de rêver.
Effectivement, effectivement.
Marc, t'as conduit une autre voiture de rêve cette semaine. T'étais au volant d'une Rolls-Royce.
Oui, écoute, dans la série Rêvons et soyons heureux, ça coûte pas cher. La Rolls-Royce Dawn. La Dawn, c'est pas la plus sportive de la famille. C'est plus la Wraith qui est la plus sportive.
Mm-hmm.
La Dawn, c'est quand même une voiture... Écoute, on s'entend là. On n'est pas exactement dans les voitures sans propriété. C'est vraiment une très, très belle voiture. En plus, la mienne était cabriolet.
Mm-hmm.
C'est vraiment spectaculaire. C'est une très belle voiture. Et en plus, moi, j'avais une version qui s'appelle Inspired by Fashion.
OK. Qui veut dire?
Ben, inspiré par la mode.
Non, ça je sais, mais ça veut dire non, quoi pour la voiture?
Je sais que ton anglais n'est pas très bon, fait que j'ai pas pris de chance.
Excuse me, Monsieur Bouchard.
Alors, ben écoute, je peux pas être écœuré. Ah, je conduis une Rolls Royce.
Ouais, ben non, plus cette semaine.
Non, là, tu as raison, je conduis une McLaren.
Ouais.
Alors non, sérieusement, ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est des éléments esthétiques essentiellement qui ont été modifiés sur la voiture. Elle est par exemple dotée de certains finis bleus absolument incroyables. Il y a des cuirs bleus à l'intérieur et il y a le toit qui est en toile mais qui est presque aussi rigide en fait qu'un toit solide, qui est lui aussi d'un bleu royal. Mais tu sais, royal là.
Ouais, ouais, ouais. Assez royal, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est absolument incroyable. Donc, c'est vraiment une voiture, elle était blanche en plus avec des petites lignes bleues extérieures. Donc, c'est vraiment une voiture qui se distingue quand la toile est en place. Quand le toit est en place, c'est une voiture que l'on remarque à cause du bleu royal. Quand le toit n'est pas en place, je dois te dire qu'à ma grande surprise, c'est pas une voiture qui a fait tourner les têtes.
Ah non, pourtant.
Non. Ben, en fait, elle est blanche, elle est grosse. Y a beaucoup de gens qui me disaient « Mon Dieu, c'est la grosse Chrysler ».
Okay.
Parce qu'elle ressemble un peu à la 300.
Ouais.
Alors, à moins de vraiment s'arrêter et de regarder en détail ce que c'est, les gens ne sont pas si familiers que ça avec Rolls-Royce. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils le soient beaucoup plus que ça.
Ouais.
Tu sais, il y a quand même des signes distinctifs absolument incroyables. Là. La grille avant, par exemple, elle est spectaculaire. Évidemment. Elle est surmontée du célèbre petit personnage qui s'appelle Spirit of Ecstasy, qui se dissimule quand tu verrouilles les portes, il va se cacher sous le capot pour pas se faire voler parce que ça vaut quelques milliers de dollars. En fait, tout là-dessus vaut quelques milliers de dollars, on va dire les vraies affaires.
Oh ouais.
À l'intérieur des portières, on a même dessiné un tissu exclusif pour aller à certains endroits qui reprend le motif du Spirit of Ecstasy. Bref, c'est une voiture. Tu sais, quand tu parles de finition, de détail, là, c'est ça au pluriel.
OK.
Ça n'a aucun sens comment c'est bien fait, comment c'est raffiné, comment c'est distingué. Tout est sophistiqué à l'intérieur. C'est vraiment superbe. La conduite, écoute, c'est ça aussi assez spectaculaire. On parle d'un V12.
Rien de moins.
D'un peu plus de 560 chevaux.
Ouais, mais la voiture pèse quand même.
Mais la voiture pèse 5600 livres.
Ouais, donc c'est ça.
Ce qui lui permet de faire le 0-100 en 5 secondes.
C'est quand même pas mal rapide pour un tank.
Effectivement, ouais. C'est assez rapide pour un tank. La réalité, cependant, avec une Rolls-Royce comme celle-là, c'est que tu ne la conduis pas, tu la vis.
OK.
C'est littéralement, c'est une expérience. Comme je te dis, tout là-dedans a été pensé, la qualité, la sophistication, la mécanique, j'en ai parlé, tu sais, c'est complètement fou, là, 0-100, 5 secondes. Tu sais, c'est inimaginable, je sais, je me répète, mais imagine faire ça avec une locomotive, tu sais, ça n'a aucun sens, là.
Ouais.
Sauf que, ça, en fait, ça n'a pas d'importance. Parce que quand tu es dans la voiture, tu es comme dans un autre monde. C'est vraiment, probablement, le meilleur cabriolet que j'ai conduit de ma vie, là.
Ouais, j'espère, au prix que ça vaut.
Ouais, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est tellement une atmosphère. T'es à l'intérieur, il y a une qualité de cuir qui est spectaculaire. Tout, évidemment, dans celle-là, moi, bon, on m'a prêté le véhicule de presse qui est monté de cette façon-là. Mais avec une Rolls-Royce, tu peux tout faire personnalisé.
Okay. Ouais,
et
ouais.
On te disait, écoute, s'il y a une chemise que t'aimes, dont t'aimes la couleur, on va la faire de cette couleur-là, ta voiture, il n'y a pas de problème. Et sur les autres modèles, entre autres, je pense à la coupée, la Wraith que j'ai essayé l'année dernière, il y avait à l'intérieur l'option qu'on appelle le ciel étoilé, où c'est une constellation de lumière d'ailes qui forme la véritable constellation qui était à ce moment-là celle qui se retrouve en haut de l'usine de Rolls-Royce.
Okay.
Okay? Mais tu peux l'avoir et choisir la constellation. Tu peux dire, moi, je vais avoir la constellation du jour et du lieu de ma naissance, puis ça va être là, tu sais.
OK. Ouais.
C'est complètement fou, là. C'est complètement hallucinant. Alors, ça c'est un des volets. Mais quand tu es dans la voiture, puis écoute, je t'avoue qu'on s'est bien amusé parce que je suis allé avec ma femme, mon fils et la blonde de mon fils, le toit baissé, on est allé manger une crème glacée. En Rolls-Royce.
Ouais. C'est pas quelque chose qui va arriver souvent.
Mais quand on est arrivé, les gens ne se sont même pas tournés.
T'as dû être déçu.
Non, en fait, surpris plus que déçu.
Okay.
C'est quand on a monté le toit avec son bleu royal que là, ça a vraiment, vraiment attiré l'attention.
Okay.
Nous, dans la voiture, on est dans un monde particulier. Il y a évidemment un système de son Bose & Wilkins qui est absolument capoté. Tout est parfait, tout est incroyablement sophistiqué. Tu sais, quand tu vis une expérience, c'est une expérience presque sensorielle que de conduire une Rolls-Royce.
Okay.
Le bémol, j'ai moins aimé la Dawn que j'ai aimé la Wraith l'année passée.
Ah, OK.
Parce que la Dawn, elle est plus inspirée des grosses Rolls-Royce d'époque, les Phantom et autrement. Donc, tu as un très gros volant, mais un tout petit boudin.
Okay.
Alors, quand tu le prends en main, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Là, t'sais.
Okay.
Ça se conduit un peu comme un énorme bateau. Excessivement confortable, mais un énorme bateau quand même. Alors, on mise beaucoup sur le confort. L'impression d'être assis dans mon salon, littéralement.
Dans ton lazy boy, mais à 110 km/h sur l'autoroute.
Exactement. Il y a quand même des affaires très cool. D'abord, comme toutes ou la plupart des Rolls-Royce, les portes s'ouvrent à l'envers.
Ouais.
Elles sont gigantesques. Donc, tu sais, il n'y a pas de raison d'avoir un problème d'embarquer là-dedans, là. Il y a de la place en masse. Et pour être sûr de ne pas avoir de misère, ben, tu as un petit bouton à l'intérieur que tu tiens appuyé et la portière va se refermer d'elle-même.
Bon, c'est de la haute technologie. Quand même
rien de trop beau.
Ouais. Y a-t-il encore le parapluie caché dans,
oui, dans la portière?
Ouais.
Tu as les deux parapluies en teflon, ventilés et tout. T'as aussi le GPS qui gère la transmission en fonction des courbes qui s'en viennent puis des dénivelés qui s'en viennent et tout ça.
Ouais, je me rappelle, t'en avais parlé dans ton essai de la race.
C'est ça. T'as ça. Mais il y a des affaires que t'as pas.
OK.
T'as pas de siège ventilé.
Oh, non.
C'est une option.
Ouais, OK.
Mais t'sais, tu parles d'une voiture là, dont le prix de base est de 432 000 $.
Ouais, ça fait paraître Volkswagen pas si cheap que ça quand ils n'ont pas de volant chauffant dans leur voiture moyennement équipée.
Exactement. C'est que là, tu sais, t'as vraiment le summum de la voiture raffinée,
ouais.
Mais il y a des éléments technologiques de cette nature-là qui sont pas là. Alors, c'est un peu particulier, mais quand même, je dois le dire, c'est une expérience que je ne regrette pas. C'est une expérience que j'adore. J'aurais aimé conduire. C'est moi, c'est de ma faute. Là, je ne l'ai pas réservé. J'ai pas été assez vite. Et il n'y a plus de place sur le calendrier. Il y a aussi une Wraith Black Badge qui est plus puissante un peu, qui est disponible cette année sur la flotte. Je l'ai malheureusement manqué. J'aurais aimé faire la comparaison entre les deux. Mais honnêtement, c'est une expérience. C'est un style de vie. Écoute, j'allais faire des tours en auto avec ma femme. Et tu sais, quand on était ticu,
mm-hmm.
Puis qu'on allait le dimanche après-midi se promener en famille, puis qu'on appréciait juste l'idée de rouler, puis d'avoir un peu de vent, là.
Mm-hmm.
Ben, c'est un peu cette sensation-là, mais dans un environnement hyper luxueux, hyper aristocratique, que je l'ai fait. Et honnêtement, j'ai adoré le style de vie que ça procure. C'était vraiment, vraiment génial. Et tu aurais dû voir ma belle-fille et ma femme qui faisaient les petits saluts royaux. La main levée, faisait exprès pour se promener comme ça. Là. C'était de toute beauté. Mais tout ça pour dire que c'est une voiture de 435 000 $.
Ouais.
Inspired by Fashion, elle vaut un petit peu plus. On parle d'un peu plus de 500 000. C'est une auto spectaculaire. Comme je te dis, l'essai mécanique, ça vaut même pas la peine d'en parler tellement il n'y a rien à dire, tellement c'est raffiné et que ça va bien. C'est vraiment toute l'atmosphère du véhicule qui est intéressante. Et ça, vraiment, de ce point de vue-là, ça fait le travail.
Bon, super. Fait que tu vas mettre ton argent de côté puis un jour, tu vas t'en acheter une.
C'est fou, hein? Comme j'avais assez mes écouteurs, là. Ils ont un filtre à niaiserie intégré. J'entends juste la moitié de ce que tu dis.
Ah, OK. C'est bon. Donc, Marc, ça, tu vas l'entendre. On va faire une petite pause puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'une voiture un petit peu moins dispendieuse que ta Rolls-Royce, mais c'est quand même une voiture qui n'est pas nécessairement abordable, la BMW M550.
Ouais, ben en fait, il faut savoir que cette année, la BMW série 5 a été complètement révisée. Hein?
Mm-hmm.
C'est une nouvelle voiture qu'on a entièrement refaite et qu'on a améliorée comme si c'était possible. Pourquoi je dis ça? Parce que probablement que la série 5 était l'une des meilleures berlines du genre au monde,
okay.
À mon avis. Là.
Mm-hmm.
Rien de moins. Je suis à peu près aussi convaincu que ça. Donc, on a amélioré cette voiture-là. Ce qu'on disait un peu à la blague, c'est qu'on a créé le confort de la série 7 avec le dynamisme de conduite de la série 3.
Bon.
Donc, on a vraiment marié les deux. Et honnêtement, ça fait un travail absolument incroyable, vraiment, vraiment spectaculaire, que j'aime beaucoup.
Okay.
Châssis rigide, c'est une voiture qui se conduit du bout des doigts, qui est absolument spectaculaire. Dans le cas de la M550, on va le préciser, ce n'est pas la M5.
Non, je sais, je te l'ai dit au début de l'émission, puis je me suis presque fait arracher un bras.
Exactement. Tu sais, il y a du monde qui ne comprennent pas vite.
Ouais, ouais, je sais.
Luc Desormeaux.
Mais Luc Desormeaux ne conduit pas des BMW.
Alors non, mais sérieusement, c'est pas la M5.
Non.
La M5, c'est la vraiment la super sportive, la plus tough, là. Tu sais, vraiment le monstre de la famille.
Ouais.
C'est quand même pas vilain, là. OK, on va être honnête, là. Elle est quand même dotée d'un V8 4.4 litres de 445 chevaux, 480 livres-pieds de coupe, évidemment, turbo à double volute.
Bon.
C'est beau, hein?
Non, c'est merveilleux. Magnifique.
C'est un twin scroll, en fait.
Mm-hmm.
Mais en français, on dit un double volute.
C'est bon.
Et c'est une voiture qui a vraiment une conduite exceptionnellement dynamique. BMW s'est toujours démarqué par le fait que leurs voitures étaient des voitures de pilote.
Ouais.
Et non pas des voitures pour l'ensemble des occupants.
Ouais.
Alors, tout ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment tourné vers le conducteur pour assurer son confort et la pleine maîtrise du véhicule. Honnêtement, ça marche assez bien, merci. Et dans le cas de la série 5 particulièrement, on a vraiment réussi des affaires incroyables au niveau de la tenue de route, au niveau des suspensions qui ont été remaniées et au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de l'allure, au niveau du style, c'est une auto qui a vraiment de la gueule, c'est une auto qui était spectaculaire et si elle s'appelle M550, c'est simplement parce qu'on lui a greffé ce qu'on appelle l'ensemble M, qui est un ensemble bien sûr là, aérodynamique et de look et de style. C'est une auto qui était incroyablement raffinée, là aussi, j'aime le mot ce matin. C'est vraiment une très, très belle voiture. La particularité aussi, c'est qu'elle est, bien entendu, dotée des nouvelles technologies, les mêmes nouvelles technologies qui président à tout ce qui se fait chez BMW. C'est-à-dire, par exemple, le fameux système qui te permet de gérer du bout des doigts. Là.
Okay.
Alors, t'as vraiment des commandes... pas tactile, mais c'est la reconnaissance gestuelle. Alors, avec le doigt, tu fais un petit rond et ça fait augmenter le volume de la radio, par exemple.
OK, ce que tu as déjà eu, je pense que tu avais parlé justement de la BMW Série 7, elle avait le
exactement.
Même genre de système. On le voyait dans une pub de BMW à la télévision, le gars faisait tourner son doigt puis ça montait le volume de
exactement,
de
c'est la même chose.
Okay.
Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment, on parle là de la Série 5, on parle donc d'un véhicule qui, techniquement, est plus abordable. Bon, plus abordable étant peut-être un euphémisme dans ce cas-ci, parce que, écoute, on parle quand même, là, une série 5 de base, la première arrive à 61 000 $ à peu près. C'est la 530 X-Drive. Évidemment, toutes les voitures disponibles chez nous sont X-Drive. Le X-Drive chez BMW, c'est le système de rouage intégral. Donc, évidemment, là, chez nous, on a l'intégral. Donc, de base, c'est 61 000. Dans le cas de la M550, on parle de 89 000 $900.
OK. Ouais.
Ce qui est quand même un peu dessous, il faut bien le préciser.
Ouais.
Mais honnêtement, c'est vraiment une voiture qui en vaut la peine, à mon avis, parce qu'elle a toute la puissance de la BMW, elle a la capacité, la direction, la légèreté de la route. Tu es vraiment là et tu enfiles vraiment les virages avec une aisance incroyable. Et malgré tout, elle est extrêmement confortable. C'est pas une auto qui est désagréable pour les occupants. C'est une auto qui est au contraire vraiment, vraiment d'un grand confort. C'est vraiment une vraie berline de luxe, bien réussie, bien faite et qui est absolument magnifique.
Ouais, ouais.
Alors évidemment, c'est une auto cependant où on a tendance à exagérer un petit peu la performance. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir le pied un petit peu pesant.
Ouais, parce que c'est facile, hein? Je veux dire, ça doit accélérer assez rapidement. Et,
ouais, puis c'est parce que tu t'en rends pas compte, en fait. Là.
Ouais, ce qui est dangereux.
Ce qui est dangereux parce que t'as vraiment, vraiment... T'es vraiment dans un monde où tu ne ressens pas autant que tu devrais l'effet de vitesse. Tellement le confort est grand, tellement l'accélération est rapide. Écoute, c'est... quand même moins rapide que ma Rolls-Royce. Là. On parle d'un 0-100 à peu près 6,1 secondes, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même bien suffisant pour le type de véhicule que c'est. Le défaut que les gens trouvent, en fait, c'est le fait que la voiture a un capot beaucoup plus allongé qu'elle ne l'avait auparavant. Ça, écoute, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est une question très subjective, mais honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment pas un défaut, là.
OK. Non, ils ont des belles voitures BMW dernièrement. Il y a eu des gens, j'ai entendu beaucoup de journalistes automobiles dire que certains véhicules avaient pas le oomph que BMW a toujours eu, n'étaient pas aussi amusantes ou à conduire que certains modèles dans le passé, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de ramener ça un peu plus, là.
Ouais, puis effectivement, puis écoute, c'est sûr qu'avec la M550, avec le gros moteur, ben là, évidemment, tu te trompes pas tellement, là.
Ouais, non, ça doit avoir un petit peu de plaisir.
Effectivement. Et vous, mon cher, qu'avez-vous donc conduit d'intéressant?
Moi, j'ai conduit quelque chose de un petit peu plus écologique que toi. Cette semaine, je suis au volant de la Chrysler Pacifica hybride rechargeable. Véhicule dont tu as déjà parlé, tu es allé au lancement, espèce de chanceux. Et puis, c'est un véhicule que tu avais dit que tu avais beaucoup apprécié. Donc, c'est à mon tour de l'apprécier cette semaine, même si je t'ai fait faire un tour dedans hier en allant te reconduire pour aller chercher ta McLaren. Je vais dire franchement, là, si j'avais une minivan à m'acheter, puis que, tu sais, il fallait que je choisisse une minivan pour conduire comme voiture familiale, ça serait probablement la Chrysler Pacifica. Pourquoi? C'est confortable, vraiment, on a l'impression de rouler sur un tapis volant, là. C'est vraiment confortable comme conduite. C'est quand même assez c'est bien côté accélération. On a quand même un V6 Pentastar dedans qui est le moteur à essence, puis on a un système de motorisation aussi électrique pour qu'on est capable de faire. Chrysler dit 53 km, j'ai réussi à faire 57 km environ. J'ai réussi à faire mon trajet complet pour aller travailler le premier matin, le mardi matin que je l'ai eu. Je l'ai fait mon trajet complet pour aller travailler avec sur le mode électrique. Le moteur essence n'a pas parti du tout, mais quand je suis arrivé au bureau puis je me suis stationné, j'étais à 0 km puis 0% de batterie.
mais ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est la capacité de récupération de la voiture.
Oui, on récupère bien l'énergie au freinage et des choses comme ça. Donc, ça nous donne quand même une bonne autonomie. Puis, faut vraiment le faire, là. C'est un véhicule qui est quand même assez lourd. C'est un véhicule qui est capable de, tu sais, d'asseoir 7 personnes. Pour d'avoir une autonomie comme ça dans ce véhicule-là, je veux dire, on parle de l'autonomie d'une Volt de première génération à peu près, là. Fait que, tu sais, on parle d'un véhicule qui est plus gros, plus spacieux. Je veux dire, c'est aussi assez logeable. Si vous avez des objets à placer dedans, les sièges arrière sont facilement rabattables. On tire sur une lanière, les sièges se rabattent dans le coffre en arrière, puis on a un espace plat pour mettre des objets. On peut aussi rabattre les sièges en avant pour mettre encore plus longs d'objets là-dedans. Une feuille de 4x8 de plywood, quelque chose, vous êtes probablement capable de la rentrer à plat,
oui,
dans le fond.
On est capable, on l'a essayé.
Tu sais, fait que c'est un véhicule qui est capable de tout faire. C'est un pick-up, c'est un véhicule familial. L'intérieur est vraiment bien fini. Ceux qui disaient, là, plusieurs années, ce qu'on reprochait à Chrysler, ou même à Dodge Chrysler, tous les produits, c'était l'intérieur qui n'était pas nécessairement fini comme on l'aimerait, des plastiques durs et tout ça. C'est vraiment pas ça dans le Pacifica. L'intérieur est vraiment bien fini. C'est vraiment des matériaux souples à peu près partout où on peut mettre nos mains pour toucher des coutures sur le volant et tout ça. L'intérieur de la Pacifica que j'ai est beige à l'intérieur. C'est vraiment beau avec un bourgogne à l'extérieur. Donc, c'est un véhicule qui est joli aussi à regarder. On a le système Uconnect dedans, qui est un des bons systèmes sur le marché, un des meilleurs sur le marché. J'ai des lecteurs DVD dans les appuis-têtes avec un lecteur Blu-ray qui est inséré dans la console. On a une console centrale qui est vraiment en dessous du tableau de bord qu'on peut ouvrir. On a de l'espace de rangement là. On a quand même assez d'espace de rangement dans le véhicule. Je veux dire, c'est un bon véhicule. J'aime bien le conduire, c'est confortable. C'est sûr que c'est pas une voiture sport, mais tu sais, quand tu dis faut que tu conduises une minivan, ben j'aimerais mieux conduire ça que conduire d'autres choses.
Ouais. Mon problème, par contre, je vais être franc avec toi, c'est que j'ai bien envie de la conduire, mais à 50 quelques mille dollars...
C'est là où le bas blesse un peu. Il y a une version à essence seulement qui commence quand même, je pense que c'est à 39 000 dollars. C'est un peu moins cher, mais la version que j'ai cette semaine, on parle de presque 59 000 dollars. On frôle avec le transport et préparation, là. Ce qui n'était pas inclus sur l'espèce de papier que j'avais dans le coffre à gants, là, on parle de 60 000 $ pour un véhicule. Puis ça, on met pas les taxes là-dedans. Mais là,
par contre, en revanche, rappelle-toi que c'est une voiture qui a une batterie assez grosse pour profiter du 8 000 $ de rabais du gouvernement du Québec.
Exactement. On a une batterie de 16 kWh. Donc, le rabais gouvernemental au Québec est de 8 000 $. C'est le plein rabais. Le même rabais que vous allez avoir sur une voiture 100% électrique ou une Volt, c'est 8 000 $. Donc, le rabais est intéressant. Mais c'est un bon véhicule. La seule chose qui va peut-être arrêter certaines personnes, c'est son prix. C'est sûr, certain, moi, j'ai la version entièrement équipée. J'ai la version qui a tout dedans. Si on enlève le lecteur DVD, puis on enlève les systèmes d'aide à la conduite et tout ça, ben on baisse un peu le prix. Là. On est capable d'avoir un véhicule qui est un peu moins cher que ça. J'ai regardé sur le site de Chrysler présentement, puis si on essaie de construire la version hybride, ben on se fait dire rester au courant. Il n'y a pas encore tous les prix où on peut pas nécessairement construire encore ce véhicule-là sur le site de Chrysler Canada. On peut faire le Pacifica à essence, mais on peut pas se configurer un Pacifica hybride, c'est explorer ou s'inscrire aux mises à jour. Donc, on peut pas encore avoir toutes les versions. Chrysler donne une consommation évaluée en ville de 2,6 litres au 100 km. C'est sûr parce qu'en ville, on utilise pleinement le mode hybride. Moi, j'ai fait du combiné, genre je fais de l'autoroute et je fais aussi un peu de ville, surtout du trafic et tout ça. Et puis, présentement, j'ai une consommation combinée de 5 litres au 100 km. Et j'avoue,
c'est très bon, là.
Qui est excellent pour un véhicule de ce taille-là, on se rappelle, là. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux parce que j'ai eu un problème avec le chargeur. Un peu la même chose que tu as eu, Marc, avec ta Ioniq. J'ai eu le même problème avec le chargeur au travail. J'ai branché le chargeur 110 volts qui vient avec la Pacifica. Et puis, la première journée, ça a bien été, mais la recharge est extrêmement longue sur le 120 volts, le 110 volts. Vous allez avoir 14 heures à peu près de recharge, ce qui est vraiment long parce que j'étais capable de charger une Volt de première génération presque au complet. Là. J'avais presque une batterie pleine en dedans d'un 8 heures de travail. Mais on semble pas avoir l'option sur la Pacifica de changer l'ampérage sur lequel on charge. Sur la Volt, on peut choisir 10 ou 12 ampères. Sur la Pacifica, j'ai pas vu d'option pour le changer. Ce qui serait peut-être intéressant parce que si on charge à 12 ampères au lieu de 10, on serait probablement capable d'aller chercher plus rapidement de la charge. Peut-être pas d'être à 100% de la batterie pour partir, mais peut-être plus que le 30% que j'ai eu quand je l'ai chargé. Aussi, la deuxième journée, le véhicule a chargé à 10%, puis quand je suis arrivé au véhicule, la borne était en erreur. Les lumières rouges clignotaient, ça fonctionnait pas, je l'ai débranché, puis j'ai abandonné. Puis le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai apporté mon propre chargeur, parce que dans ma voiture électrique, j'ai apporté mon chargeur que j'ai jamais eu de problème avec, peu importe où j'ai rechargé. Puis j'ai rechargé la Pacifica avec mon propre chargeur. Puis ça a fonctionné. Okay. Mais c'est ça. Fait que peut-être, c'est peut-être quelque chose à vérifier. S'il y a un problème avec la prise, si la prise n'est pas optimale, on dirait que le chargeur de la Pacifica, un peu comme celui de la Ioniq, a de la misère avec peut-être un courant qui n'est pas hyper, hyper stable. Donc, c'est le seul problème que j'ai vu. À part de ça, c'est une magnifique voiture. Le prix est un peu élevé, mais si vous allez chercher une version de base, vous allez peut-être être capable d'avoir ça pour un peu moins. Puis là, on regarde avec le rabais du gouvernement, Chrysler dit que ça donne 45 537 $. Ce qui est quand même bien. Faut dire que c'est un véhicule haut de gamme aussi. Là. C'est pas, c'est mieux équipé et c'est beaucoup mieux fini que ce qu'on peut retrouver peut-être ailleurs. Là.
Oh, oui, c'est ça. Mais on est vraiment dans la catégorie. Il faut rappeler que ça remplace la Chrysler Town & Country et non pas la Dodge Grand Caravan.
Non, Dodge Grand Caravan qui est toujours disponible, qui est une version plus bas de gamme, peut-être plus facile à acheter pour une famille. Là. Tandis que ça, on est vraiment dans le plus haut de gamme. Mais c'est un beau véhicule. Si j'avais une mini fourgonnette à m'acheter et que j'avais les moyens, ça serait ça sans hésiter. J'ai beaucoup aimé. C'est confortable. J'ai encore pour la fin de semaine. Je m'en vais au Comic-Con avec des adolescents en fin de semaine. On va te remplir ça de jeunes. On va voir comment ça va se comporter en mode tout électrique pour se rendre à Montréal. J'en reparlerai peut-être un petit peu rapidement la semaine prochaine.
Pas de problème.
Donc, Marc, on va faire une petite pause. On va revenir avec Martin et sa chronique voiture électrique. Alors, nous sommes de retour et nous rejoignons notre spécialiste en voiture électrique, Martin Archambault. Salut, Martin.
Salut, Luc. Comment ça va?
Ça va très bien. Ça fait encore très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. À chaque fois qu'on se parle, on se dit « Ah, faudrait pas que ça soit si long avant la prochaine fois. » Et c'est toujours aussi long avant la prochaine fois.
On croirait entendre parler ma blonde.
Ouais. On va garder ça personnel.
Oui.
Donc, la prochaine fois, on va s'arranger que ça fasse moins longtemps en chaque. Je le dis encore et je veux vraiment que ça soit comme ça. Martin, tu as plusieurs nouvelles pour nous cette semaine, dont une grosse nouvelle de Volvo qui a été annoncé aujourd'hui, jour de l'enregistrement, qui est peut-être hier pour les autres, là, mais c'est ça, aujourd'hui, jour de l'enregistrement, Volvo qui a décidé de faire plus de voitures électriques.
Ben oui, en fait, la compagnie a même annoncé qu'elle avait l'intention d'ici 2019, de ne plus produire de voitures seulement à motorisation à essence, donc s'en aller vers la voiture soit hybride ou tout électrique. Là. Elle a même annoncé cinq nouvelles voitures tout électriques qui devraient sortir en 2019 et 2021. Donc, c'est une affirmation, un statement, comme disent les Anglais, assez fort dans le sens où pour Volvo, là, donc sans dire qu'elle fait un virage uniquement électrique, elle délaisse là, de façon drastique la motorisation uniquement à essence pour s'en aller vers l'hybride et l'électrique.
Bon, donc, c'est une belle manière de se démarquer du lot, par exemple. Puis j'ai vu l'annonce sortir aujourd'hui, puis ça a été pas mal interprété, mais peut-être mal annoncé par certains médias qui étaient marqués « Ah, Volvo laisse tomber les voitures à essence ». C'était presque ça, la motorisation à essence. Ouais, non, c'est Volvo va sortir des voitures qui vont être hybrides ou tout électriques, mais c'est juste plus de moteurs à essence seul, mais il va y avoir des moteurs à essence encore. Là. Certains grands titres là, laissaient penser que Volvo s'en allait tout électrique pour à peu près tout. Là. C'est impossible. Là. Mais fait que ça, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu la première une d'un média. Je pense que je vais aller lire l'article pour être certain parce que le titre a l'air un petit peu trop optimiste.
Effectivement. Ben, en tout cas, on a bien hâte là, de notre côté d'entendre parler des nouveaux modèles qu'on nous parle de tout électrique, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une annonce qui est intéressante de la part d'un manufacturier là, quand même important et reconnu comme Volvo, donc à suivre.
Ouais, c'est très intéressant, même quand tu vois une compagnie comme ça qui fait un gros VUS, le XC90, en modèle hybride rechargeable, tu sais, puis qui peut rouler tout électrique, c'est quand même super intéressant. Là.
Ouais.
Donc, je leur donne des gros points pour ça.
Maintenant, une nouvelle qui est intéressante parce que elle va venir chatouiller les oreilles de notre ami Marc, je pense.
Oui, peut-être un petit peu.
On
hein.
parle de la Tesla. Oui, il a fait des affirmations, des grosses affirmations dernièrement, Marc, en lien avec la date de mise en marché ou en tout cas de distribution des premières Tesla 3.
Ouais.
Tu sais, Marc nous a souvent répété que Tesla n'était pas nécessairement reconnu pour livrer ses véhicules à la date promise. Mais dans le cas de la Tesla 3, on a appris cette semaine que les premières Tesla 3 vont sortir de l'usine ce vendredi, le 7 juillet. Là, évidemment, là, on parle des premières voitures qui vont sortir de l'usine, de un, ils ne sont pas encore livrés aux gens qui l'ont commandé, là, faut rester calme. Puis deuxièmement, on comprend bien que c'est les premières commandes qui seront livrées aux États-Unis, là. Ça fait pas de, il y aura personne à Montréal qui va recevoir sa Tesla 3, là, la semaine prochaine. C'est pas ça que ça veut dire, mais quand même, en fonction des dates qui avaient été annoncées pour la sortie des premiers véhicules, ils sont quand même en avance, même sur leur cédule. Donc, c'est vendredi, le 7 juillet, que va sortir la première voiture de l'usine. Et le 28 juillet, Tesla, la compagnie Tesla là, va faire un événement comme ils font occasionnellement pour présenter de façon officielle la version finale du véhicule. Puis il y a un paquet d'événements là, qui se préparent un peu partout dans plein de régions au Québec, partout en Amérique et à travers le monde pour assister là, en ligne à cet événement-là. Il y en aura un à Montréal aussi. Mm-hmm. Donc, on parle environ d'une centaine de véhicules qui devraient sortir de l'usine dans le mois d'août, donc les premiers. Le premier 100, ça va se faire assez tranquillement. On parle de 6 000 véhicules pour septembre, puis de 20 000 véhicules par mois rendus au mois de décembre, pour un total d'environ 40 000 voitures qui devraient sortir d'ici la fin de l'année. Ça, c'est ce qui a été annoncé.
Oui, sur les quoi, 400 quelques mille personnes qui ont mis un dépôt pour en commander.
Exactement. Donc, c'est beaucoup quand même, 40 000 voitures en quelques mois, mais ouais. C'est le dixième de ce qui a été commandé. Évidemment, la capacité de production là va accélérer, va augmenter au fil des mois et du temps, ce qui fait que bon, faut quand même pas penser que faut prendre ce temps-là puis faire x10 nécessairement pour le dernier sur la liste là.
Non, non, non.
Mais quand même, c'est quelqu'un qui a commandé tardivement sa Tesla 3 au Québec. Faut pas s'attendre à voir ça là, en 2017, c'est bien certain. Puis même, je dirais, faut pas être trop optimiste pour les premiers mois de 2018 non plus. Là.
Ouais, peut-être à la mi-année. Mais j'ai vu un article, je me rappelle pas si j'ai vu ça passer, que Tesla planifiait de produire une Tesla 3 aux 2 minutes.
C'est quand même...
À un moment donné, là. Fait que c'est comme... Ça commence à être de l'auto qui sort d'une usine. Là.
Ouais, tout à fait.
J'ai hâte d'avoir... J'ai hâte de pouvoir, tu sais, aller chez Tesla puis juste en ramasser une, tu sais, peut-être.
Ah, c'est bien certain.
Ça,
c'est bien
intéressant.
Certain.
Ouais.
On nous a confirmé que le prix de vente là, du modèle de base sera de 35 000 US. Au taux de change actuel, ça correspond à peu près à 40... taux de change... On met les taxes puis les incitatifs là, du gouvernement au Québec. Là, ça veut dire que ça va revenir à peu près à 44 300 $ au taux de change actuel pour le modèle de base. Maintenant, Tesla est spécialiste des options. Il n'y a pas encore eu de confirmation à ma connaissance de ce qui était inclus puis pas inclus puis ce que coûterait chacune des options encore parce que les packages d'options semblent vouloir être différents de ce qu'on a connu avec la Model S. Là. Ceux qui sont déjà allés sur le site de Tesla puis qui ont même sans peser sur le piton commandé, là, qui ont joué avec les options, tout est en option sur une Tesla S. Là. Je veux dire, tu as des centaines et des centaines d'options. Là. C'est pas comme une voiture normale où tu as deux, trois déclinaisons puis une couple d'options en surplus. Là. C'est, je veux dire, les types de tissus, les cuirs, et un paquet de trucs, que ce soit physique ou même software, des options logicielles dans la machine, ça vient en option. Donc, reste à voir quelqu'un qui veut équiper un peu puis donner un peu de punch à sa Tesla 3. Qu'est-ce que ça va coûter en 44 300 Canadiens? Ça, c'est de base, là, mais une fois que tu as mis les options dessus, elle va revenir à combien? On le sait pas encore.
Ouais, c'est assez intéressant. Hâte de voir un peu. Puis oui, ils vont un peu avec la méthode BMW et Porsche là, où tu veux quelque chose, ben c'est une option. Paye pour.
Effectivement. Ça semble être la façon... ça a toujours été la façon de faire pour Tesla, mais reste à voir comment ils vont packager ces options-là sur la Tesla 3, parce que elle se veut, ils la vendent, ils font le marketing en disant, là, contrairement à la S, on vise pas un marché de voitures de grand luxe, c'est pas une voiture donnée, mais on vise pas une voiture plus... Monsieur et Madame Tout-le-Monde, là, dans la mesure où Monsieur et Madame Tout-le-Monde peut s'acheter une voiture à 45 000 Canadiens, là, j'en conviens, ça se veut pas une machine à 100 000 $ et plus, donc reste à voir comment ils vont packager ces options-là pour que ça reste raisonnable aussi là, dans ce contexte-là.
Ouais, puis il me semble que j'ai vu passer une autre nouvelle qui disait qu'il annoncerait peut-être une version encore plus de base que ce qu'il y avait présentement, là. Même, c'est peut-être une vieille nouvelle, là, même si j'ai vu ça passer aussi cette semaine, qui allait peut-être annoncer une version encore moins chère de la Tesla 3. Fait que je sais pas si on réussit à sauver à quelque part ou enlever d'autres options, puis ça va peut-être juste être quatre roues et un volant, puis la carrosserie va venir en option, là, mais il me semble que j'ai vu qu'il annonçait peut-être une version encore moins chère. On va savoir ça probablement le 27, t'as dit? 27 juillet?
Le 28.
28 juillet, bon.
Ouais.
OK. À part de ça, tu veux nous parler de la Honda. Toyota Prius Prime.
Ben oui, Toyota qui mise fort sur le Québec puis ont décidé de rendre disponible là, en primaire la voiture au Québec. Évidemment, peut-être aux grandes dames des autres provinces canadiennes, mais Toyota donc reconnaît l'avance ou l'engouement pour les voitures un peu plus vertes qu'on a ici au Québec. Puis la voiture s'est quand même bien vendue. En 20 jours, ils ont vendu 85 Prius Prime. Il y avait un objectif d'en vendre une quarantaine. Donc, c'est plus que le double. Puis pour 2017 au complet, là, donc à partir du moment où la voiture a été lancée, là, il n'y a pas tellement longtemps, aller jusqu'à la fin de l'année, ils prévoient en vendre 400 à la grandeur du pays. Donc, quand même, en 20 jours, 85, s'ils gardent cette cadence-là, puis si ça se poursuit, voire même s'accélère, ils devraient vendre au-delà de 400. Je sais pas si toi, tu l'as essayé, cette voiture-là. Moi, j'ai jamais été un grand amateur de la Prius en général. Là. C'est une question personnelle, là, puis ça n'a rien à voir avec électrique, pas électrique. C'est une voiture qui m'a jamais excité beaucoup. J'ai pas excité du point de vue du look de la voiture, puis pas excité du point de vue du plaisir de conduite, je dirais, là, si je peux en parler ainsi.
Ouais. C'est moins pire qu'on pense, par exemple. C'est la voiture qu'on a pris, moi et Marc, ou Marc et moi, pour être plus politiquement correct, pour aller au Salon de Toronto en février. Puis j'avoue que pour avoir fait 1000 km dedans, aller-retour, là, c'est quand même assez confortable. C'est extrêmement efficace côté consommation d'essence. On a fini en bas de 5 litres aux 100 km pour faire Montréal-Toronto. Ça a presque rien coûté en essence. Puis côté agrément de conduite, c'est pas si pire. Moi, c'est, j'ai un petit peu de misère avec le look, mais ça, c'est, tu sais, on joue avec l'aérodynamisme, là, des choses comme ça. Donc, tu sais,
ouais.
chaque pointe ou chaque décision de côté design et pour l'aérodynamisme de la voiture. Mais je dois avouer qu'on avait été agréablement surpris du comportement de la voiture pour un si long trajet. Fait que c'est ça. C'est mon expérience. J'ai quand même fait 1000 km. J'ai quand même conduit un peu entre Montréal et Toronto. Là. J'ai été agréablement surpris. C'est une voiture qui est quand même agréable à conduire. C'est pas une Porsche, là, mais c'est quand même bien. Là.
Ouais, puis si tu la compares avec les anciens modèles de Prius.
J'ai pas essayé les anciens modèles de Prius.
Moi, c'est le contraire. J'ai essayé les anciens, j'ai pas essayé celle-là. Les anciens, je trouvais que c'était une voiture qui était un peu vache, surtout quand on est habitué maintenant que les voitures électriques, c'est tellement en prime.
Ouais.
Que moi, j'ai essayé une Prius après être habitué de conduire une voiture électrique, 100% électrique, je devrais dire, puis ça m'avait un peu déçu sur cet aspect-là, donc je peux pas comparer, fait que je peux pas émettre de commentaires là, précis là-dessus, mais néanmoins, c'est une voiture qui suscite beaucoup d'intérêt. Prius, c'est un modèle qui est aimé, qui a beaucoup d'ancienneté, si je dois dire, qui est reconnu aussi pour, qui a réussi à démontrer la longévité des voitures avec de l'assistance électrique. Là, il y a des Prius qui datent des premières générations, puis pour lesquelles la batterie est encore en santé, puis le l'hybride fonctionne très, très bien sur le véhicule. Donc, ça l'a aidé, je pense, à démontrer la viabilité d'une voiture avec une motorisation autre chose qu'à essence. Ne serait-ce que pour ça, on lui doit respect, je pense.
Ouais.
Ce nouveau modèle-là était bien entendu, parce que là, on parle d'une autonomie plus grande. Là, c'est parce que les anciennes Prius, c'était une vraie hybride là, dans le sens où tu décollais électrique, mais c'est à peu près tout. Là, ça tombait à l'essence assez rapidement.
Ça embarquait électrique de temps en temps quand la batterie se rechargeait, là, mais c'était pas. Ouais. Tu n'avais pas un kilométrage électrique, tandis qu'avec la Prius Prime, tu as quoi, une quarantaine de kilomètres, je pense.
Ouais,
trentaine, quarantaine de kilomètres, là, c'est quand même bien. Puis c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu moins vache parce que là, tu as vraiment un moteur électrique qui est capable de pousser pendant un petit bout de temps. Fait que tu as des meilleures accélérations. Là. Moi, j'avais bien aimé là,
ouais.
Côté voiture, là, c'était très bien. On manque un petit peu de temps, Martin. On va finir avec la nouvelle sur la e-Golf.
Oui, la e-Golf, voiture longuement attendue. Ça fait des années qu'on se demande pourquoi Volkswagen qui vend cette voiture-là chez nos voisins du Sud, ne serait-ce qu'au Vermont, à 1h30 d'ici, sont capables d'en avoir et pas nous. Ben là, c'est chose faite. La nouvelle e-Golf commence à être distribuée chez les concessionnaires. Il y en a qui l'ont reçue. Ça rentre pas vite, ça rentre au compte-gouttes. Là, je dois dire, ils en reçoivent une. Puis bien souvent, elle est déjà vendue. Il y en a d'autres en commande, mais Dieu seul sait quand est-ce qu'ils vont arriver. Mais quand même, elles arrivent, donc c'est la bonne nouvelle.
Mm-hmm.
Vous pouvez aller la voir. C'est une voiture, je vous rappelle, qui a une batterie de 35,8 kWh avec une autonomie là, de 200 km. Port de recharge rapide, combo CCS, elle fonctionne avec 4 modes de freinage régénératif, avec un moteur électrique de 100 kW, là, 134 chevaux. Donc, c'est une voiture qui est très intéressante. Tous ceux qui l'ont essayé ont bien aimé. Les amateurs de la marque, le Volkswagen, même si la marque a mangé quelques baffes dans les dernières années avec les scandales.
Les scandales de diesel, mais c'est un peu grâce à ces baffes-là qu'on a la e-Golf au Canada.
Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ce scandale-là a comme un peu forcé la compagnie à doubler d'efforts pour redorer son image un peu plus verte, un peu plus écologique, puis à pousser un peu plus les véhicules à motorisation électrique ou hybride. Fait que ça permet de voir arriver, puis avec la pression aussi de la loi zéro émission, là, qui fait que, bon, c'est un peu gênant quand en plus, t'es une entreprise qui produit un modèle électrique puis tu le rends pas disponible dans certaines régions, qui plus est des régions qui sont très réceptives à ce genre de véhicule-là comme le Québec, mais c'est difficile à justifier de pas le rendre disponible à ces endroits-là. Donc là, ça arrive. Les amateurs de la marque adorent. Donc, tu sais, il y a des gens qui ont Volkswagen de tatoué sur le cœur, qui ont cette auto-là depuis toujours puis qui vont rester avec du Volkswagen. Donc, ça va permettre aux irréductibles de voitures allemandes là, de faire l'essai de cette voiture-là et possiblement de faire le saut vers le tout électrique. Donc, c'est mon prochain essai, moi, là, que je vais tester, c'est celle-là. Donc, j'ai bien hâte là, de rouler un peu avec puis de pouvoir vous en parler un peu plus.
Super. Donc, tu nous en auras une nouvelle quand ça sera fait. Martin, merci encore une fois d'être venu faire ta petite chronique. On se reparle bientôt, j'espère.
Tout le plaisir est pour moi. Puis oui, comme on sait en entrée de jeu, plus souvent.
C'est beau. Merci, Martin.
C'est beau.
Okay, bye. Bye. Alors, nous, on fait une petite pause, puis on revient avec Marc et le bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure du dernier bloc, notre bloc nouvelle. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, mon cher?
D'abord, je tiens à préciser que je ne montrerai pas les marches de ratoir à genoux. On va régler ça de suite.
OK.
Elle n'est pas encore arrivée au Canada.
Non, c'est pas fait.
Quand elle sera arrivée pour vrai au Canada, on ne parle pas de deux modèles, là. On parle de livraison au Canada. Mm-hmm. On verra. Alors, si ça se fait avant novembre, je respecterai ma parole. Si ça se fait pas avant novembre, je vous retiens, toi et Martin, et je vous jure que je vais trouver un moyen de vous faire payer ce que vous avez dit en onde et hors d'onde, dois-je le préciser.
Bon, on a plus parlé hors d'onde, mais en onde, on n'a pas dit grand-chose, Marc. On a juste dit que ben on en connaissait peut-être un qui allait monter les marches de l'oratoire à genoux.
Oui, c'est parce que tu sais, on sait ce que ça veut dire. Hein? Je vous connais. Fait que, bref, tout ça pour dire que vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Je vous le confirme.
Okay.
Attendez avant la fin de l'année. Bon, ceci étant dit, dans la série des nouvelles, sérieusement, il y a des choses quand même pas mal plus intéressantes que ça.
Ouais. Certaines personnes pourraient peut-être trouver ça intéressant de devoir monter les marches de l'oratoire.
Pas sûr que si je le fais tout nu, ils vont tant trouver ça intéressant.
Là, il va falloir censurer pas mal là, quand même.
C'est ça, exactement. Allez, c'est ça. Okay. Puis je ferai pas ça au frère André. Ceci étant dit, le nouveau E-Pace, Jaguar qui nous annonce un nouveau E-Pace, tu en as parlé un peu sur notre page Facebook.
Mm-hmm.
C'est vraiment très cool comme concept parce qu'il va être en bas du F-Pace en termes de coût.
Oui.
C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un petit utilitaire sport qui a un design très particulier. Il est prévu pour arriver bientôt. Il y a eu la première mondiale qui va être la semaine prochaine, le 13 juillet. Donc, à surveiller, si vous ne connaissez pas le E-Pace, faites une petite recherche. Il va y avoir un dévoilement en direct d'ailleurs. Honnêtement, ça vaut la peine parce que c'est un très, très beau petit véhicule et ça vient, comment je pourrais dire, ça devance là où Jaguar est rendu, si tu veux. C'est-à-dire que bon, il y a eu le F-Pace, il y a la petite XE qui est abordable,
mm-hmm.
et maintenant on arrive vraiment avec un E-Pace, un E-Pace. Je dois dire le E-Pace parce que c'est un peu mélangeant.
Mais de toute façon, ça fait E-Pace, puis c'est.
Oui, mais c'est parce qu'il y aura dans l'avenir, rappelle-toi, le I-Pace.
Ouais, ouais, qui va remettre le E-Pace.
Qui va être en français
ouais.
le E-Pace, qui lui est un véhicule électrique qui, dit-on, devrait développer 400 chevaux.
Ouais.
Donc, on n'est pas là, mais le E-Pace, que je trouve vraiment lettre.
Comme non, ben déjà, F-Pace, c'est
un... F-Pace, ça se dit quand même relativement bien.
Ouais. Ouais.
Mais le E-Pace, pas vraiment. En tout cas, on parle de 42 700 $, ce qui est quand même extrêmement intéressant et extrêmement agréable comme tentative parce que on anticipe. Moi, j'aime beaucoup les looks de Jaguar,
oui,
je dois dire.
Dernièrement, les derniers véhicules sont vraiment beaux, mais je croise de temps en temps dans mon coin une vieille Jaguar du temps qui était faite sur le même. C'était sous Ford et c'était fait sur la même architecture qu'une Taurus, je pense, ou une Tempo.
Ouais, effectivement.
Ça, c'est moins joli. Mais les nouvelles Jaguars sont magnifiques. La seule chose que j'ai un peu avec le nom E-Pace, c'est que normalement, on met un E en avant des voitures qui vont être électriques.
Ouais, mais c'est pas le cas dans ce cas-ci.
Ça porte un peu à confusion, mais bon.
Oui.
Ouais.
Mais voilà, on n'est pas là, vraiment pas. Et c'est particulier parce que la même semaine où Jaguar nous annonce l'arrivée du E-Pace pas cher, ils ont aussi présenté la semaine passée la Project 8, qui est la Jaguar la plus puissante de son histoire. On est un peu dans le... On tire vraiment dans toutes les directions chez Jaguar. On est dans une année qui va très bien. D'ailleurs, les ventes de voitures vont très bien. On se dirige vers une année record. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les résultats des ventes.
De Jaguar, non.
Non, pas juste de Jaguar.
De partout, non, pas
de
encore.
De partout. Et c'est vraiment, vraiment, on est vraiment... on se dirait, pour la première fois, on a excédé 1 million de véhicules vendus en 6 mois au Canada.
Ouais, ce qui est quand même beaucoup.
Ce qui est énorme. Écoute, on parle là au total là, d'augmentation actuellement, si tu veux. Là, on est à 1 039 000 unités vendues. C'est la première fois qu'on fait 1 million en 6 mois. C'est une augmentation remarquable de 5% par rapport à l'année passée, qui était déjà une année record. C'est assez incroyable. Et bizarrement, il y a à peu près tout le monde est en progression. Ceux qui ne sont pas, c'est malheureusement FCA qui ont souffert un petit peu, une baisse de 3%.
Ouais.
Il y a Land Rover qui baisse de 1,8%. Et la catastrophe, vraiment, c'est Hyundai qui est en baisse de 15%.
C'est bizarre parce que pourtant, c'est des véhicules qui sont accessibles. Puis, tu sais, ils font juste s'améliorer, ils offrent des bons produits, la Ioniq et des choses comme ça.
Oui, mais je pense que. Je pense que le problème, c'est que la Ioniq, elle n'est pas encore disponible vraiment en masse.
Ouais.
La nouvelle Elantra GT va vraiment faire une belle job, mais on n'est pas rendu là. Bref, on est un peu dans un monde de variation, mais je te rappelle que on parle d'une baisse, donc on est passé de 15 000 à 12 800 véhicules.
Ah oui.
Fait que, oui, c'est beaucoup, mais on vend quand même pas mal de véhicules. Les autres, écoute, tout le monde progresse de façon assez remarquable. Bon, il s'est vendu 60 Genesis au Canada en juin. Là.
Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même... C'est 60 ventes pour une nouvelle marque.
C'est ça. C'est quand même intéressant et c'est quand même le double de ce qui s'est vendu de Smart, pour ton information.
Ouais.
Il s'est vendu 34 Smart.
Ouais. C'est pas mal mort. Smart, c'est pas mal mort.
Ouais. Ben, ce que ça vient prouver, en fait, c'est qu'une fois de plus, ce sont les camions légers qui ont vraiment le haut du pavé sur les ventes. C'est incroyable. Écoute, 67,3% des ventes, ce sont ce qu'on appelle les camions légers. Mm-hmm. Donc, les véhicules comme, oui, les Ford F-150 puis les Ram de ce monde, mais aussi tout ce qui est VUS et petits utilitaires sport et multisegments, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, une augmentation importante. Là.
Ouais.
On est rendu à 67,3% des ventes. C'est énorme. On en a vendu 137 000 au cours du dernier mois. On a vendu 66 440 voitures passagers. Une très, très légère baisse d'un dixième.
Ouais, faut pas se poser la question pourquoi tous les manufacturiers s'en vont vers des VUS. Les Nissan amènent le Qashqai au Canada. Après ça, t'as Ford qui va amener l'EcoSport au Canada. Puis t'as le E-Pace qu'on vient de parler pour Jaguar. T'sais, c'est le marché. C'est la mecque de...
Même Ferrari. Ouais. Même Ferrari est prêt à construire un VUS maintenant.
Même s'il avait dit qu'il ne le ferait jamais, mais oui.
Même s'il avait dit qu'il ne le ferait jamais, là, ils ont vu que Lamborghini s'en venait avec son Urus. Donc, évidemment, on veut vraiment s'en aller. Et à titre d'information, pour les gens qui avaient un doute, Volkswagen, augmentation de 30,3% au cours des derniers mois.
Ouais, c'est il y a encore des fans de Volkswagen qui vont oublier le scandale TDI. Puis aussi, faut pas oublier, hein, beaucoup de monde qui se sont débarrassés de leur TDI pour aller chercher un autre produit Volkswagen. Fait que ça, exactement. Ça paraît dans les ventes aussi.
C'est
là.
Sûr que ça paraît parce que tu vois, depuis le début de l'année, ils sont en baisse de 10%. Ce qui est quand même pas énorme, là, compte tenu de ce qui s'est produit. Là. C'est quand même pas énorme.
Ouais.
Ça ne te surprendra pas de savoir que c'est Ford qui est encore numéro 1 avec 32 000 véhicules vendus. Ce qui est quand même important, hein, c'est 5 000 de plus que le numéro 2 qui est GM.
Ouais.
C'est beaucoup. Ford, c'est une augmentation de 15 %. Et qu'est-ce qui a marché? Les VUS et les camions.
F-150 Escape.
C'est ça, F-150 qui a eu son meilleur mois de juin à vie.
Oui. L'Escape aussi a eu une augmentation assez, assez ahurissante.
L'Explorer a augmenté, je pense, de 81%.
Ouais.
On est vraiment là, dans un monde complètement, complètement fou. Ça revole, ça n'a pas de bon sens. Bref, tout ça pour dire que ça va très bien en général pour les entreprises qui augmentent. Il y en a que, bon, Infiniti a augmenté de 20%, mais tu passes de 900 à 1200, c'est moins significatif un peu.
Oui, oui.
Maserati a augmenté de 100%, mais ils n'ont vendu 129, ils n'avaient 63 avant. Là, fait que c'est...
Ouais.
On n'est pas vraiment dans des gros chiffres. Là.
Non, puis c'est un marché très, très niche. Là.
C'est ça. Mais tu sais, Mercedes-Benz est en hausse de 13%. La plupart des Audi, 24% d'augmentation. Mais les marques qu'on appelle mainstream, là, les marques plus accessibles, tu sais, Kia est en hausse de 8%, ce qui est quand même pas rien.
Ouais.
Mazda est en hausse de 4%. Même Mitsubishi est en hausse de 9,4%.
Il y a du monde qui se sont perdus.
Et...
Ils ont tourné à gauche au lieu de tourner à droite.
Ça, c'est vraiment chiant.
Non, mais
comme tu vois, les ventes vont très bien au Canada. On est dans un monde où l'automobile se débrouille très bien.
Mais tu sais, encore, on dit, c'est en blague, juste que le monde se perd dans ses Mitsubishi, là, mais les VUS sont à la mode, puis Mitsubishi, le trois quarts des voitures qu'ils offrent maintenant, c'est soit la Lancer qui est en fin de vie, soit la Mirage, que je pense pas que c'est pour ça que les gens vont chez Mitsubishi, mais ils ont quand même quelques bon VUS.
Oui, effectivement. Écoute, le Outlander, c'est un bon véhicule. Là. On peut pas vraiment rien dire.
Non, le RVR a quand même de la gueule. Là. C'est un véhicule qui est joli.
Le moteur est moins intéressant, mais n'empêche.
Puis la transmission, mais pour le côté look, c'est joli. C'est le RVR avec la Black Edition.
Hey. Effectivement. Okay. Rapidement, on parle de camion. Le Ford F-150 qui va enfin arriver avec une version diesel, dit-on. Et, aux surprises, ce serait le diesel V6 3 litres de Jaguar Land Rover.
Ah.
On dit qu'en fait, les deux compagnies, même si ça a été vendu depuis à Tata Motors par Ford, les deux compagnies ont continué de travailler de concert au développement de leur moteur diesel. Donc, c'est là qu'ils sont rendus. Donc, ce serait Jaguar Land Rover qui va fournir le moteur diesel.
Ah, c'est quand même intéressant. Il y a une couple d'années, j'avais eu un Range Rover Evoque, puis quand tu levais les couverts, c'était marqué Ford EcoBoost dessus.
Oui, effectivement, il y a encore des ententes de cette nature-là. Ouais, et une dernière petite nouvelle avant de conclure, parce qu'on est presque rendu à la fin de cette fabuleuse émission.
Ah oui.
La Electra Mechanica Solo est finalement vendue.
Ah, c'était quoi?
C'est une petite voiture électrique à trois roues, une micro-voiture monoplace que tu peux acheter. C'est une entreprise basée à Vancouver. Ça produit 82 chevaux. Ça pèse à peu près 626 kg. Ça peut accélérer 0 à 100 en 8 secondes. On dit que ça fait 130 km/h de vitesse maximale. Mais quand je regarde la voiture, j'oserais jamais faire ça avec ça. Mmh. Alors, évidemment, on dit que ça prend 6 heures à recharger sur le 110.
OK.
Et que tu as une autonomie de 160 km.
Ouais.
Mais je te rappelle que c'est une monoplace. Là. C'est une micro-voiture qui est faite pour la ville. Bon, on peut l'acheter en ligne sur le site d'Electromechanica pour à peu près 19 800 $. Mon seul bémol, c'est que je n'ai pas réussi à trouver à quel endroit la voiture avait été autorisée pour aller sur la route en matière de sécurité. Je cherche toujours cette information-là. Si vous l'avez, faites-moi plaisir de me le dire parce que actuellement, je ne trouve pas nulle part le fait que Transport Canada a autorisé l'Electromechanica ailleurs qu'en Colombie-Britannique où elle est vendue.
Oui, c'est ça. C'est le problème de certains. C'est le problème de la Twizy aussi qu'une compagnie voulait apporter ici puis que finalement, ça n'a jamais été autorisé.
Non, puis écoute, mais faut en tout cas. On pourrait parler longuement de l'histoire de la Twizy. On va se contenter de dire que ça n'arrivera pas.
Ouais, c'est parce que si on commence à parler de la Twizy, on pourrait bifurquer vers d'autres sujets de la même compagnie. On va se retenir un petit peu pour tout de suite.
C'est ça, on se garde une petite gêne.
Oui, on va faire ça. C'est rare qu'on fasse ça, mais on va faire ça. Donc, Marc, c'est tout pour cette semaine. Si les gens veulent te rejoindre ou te faire des babayes dans ta McLaren, comment font-ils ça?
Écoute, le meilleur moyen, c'est encore d'aller sur mon blog marcbouchard.ca ou de venir me retrouver sur ma page Facebook ou encore Twitter, Marc souligné Bouchard. Et si vous voulez voir mes chiens, mais vous venez sur Instagram, Bouchard souligné Marc. C'est pas mal le meilleur endroit, mais sérieusement, si vous passez par mon blog, vous avez là tous les liens pour atteindre mes différents comptes de médias sociaux. Il y a aussi notre adresse Internet commune, qui est info@saroulradio.com.
Mm-hmm, bien sûr.
Je m'en viens bon.
Non, pas
info@saroulradio.com. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Luc et moi qui recevons les courriels. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. On n'en reçoit pas beaucoup, les gens. C'est drôle, on a beaucoup, beaucoup de commentaires sur tout ce qu'on poste sur Facebook. On dirait que les gens sont gênés de nous poser des questions en privé par courriel. Ne vous gênez pas. On répond à presque tout, excepté combien on pèse.
Oui, ça, c'est quelque chose. Mais c'est facilement à nous regarder si vous êtes capable de prendre un bon guess à savoir c'est combien. Mais
mettons que quand on parle de voiture, on parle aussi de la capacité de remorquage. Mais en tout cas, c'est une autre affaire.
C'est bon. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte Ça Roule Radio sur Twitter qui est Ça Roule Radio, Facebook qui est aussi Ça Roule Radio. On est disponible sur Google Play et aussi sur Apple, sur iTunes. Puis vous pouvez nous écouter sur sportradio.ca et aussi sur Radio Highway. Donc, Marc, merci beaucoup encore une fois. Je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir avec ta McLaren en fin de semaine.
Je suis obligé de te reprendre, mon beau Luc.
Ouais.
On n'a malheureusement plus diffusé sur Radio Highway parce que la radio a dû fermer ses portes, mais on est sur Radio H2O.
C'est Radio H2O, je voulais dire. Je me suis trompé. Bon, c'est sûr. Hey, je me trompe jamais. Fait que, hein, c'est une première. Non, c'est pas vrai. Donc, oui. Donc, Sport Radio et Radio H2O. Donc, merci encore une fois, Marc, d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Et on dit à tout le monde à la semaine prochaine. Bye.
Bye bye.